The flying disc has been found.
El mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Mythe et complot. Bonjour, mon Christian.
Salut, Bernard.
Alors, les triangles volants. Je te le dis, là, oui. J'ai eu des appels, des gens qui m'ont l'air sensés. Je suis pas convaincu, là.
Oui.
Moi, tant que je serai pas embarqué dans ce couple, là, moi, je n'y croirai pas à ce couple, tu comprends?
Oui, absolument.
Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont appelé, puis qui m'ont. Puis c'est pas des hurluberlus, là. C'est du
non.
monde, là. C'est quoi ce phénomène-là, bon, là?
D'abord, il y a plusieurs choses qu'on doit savoir. Ici, la semaine dernière, on s'est laissé, tu me parlais que tu avais fait un exercice avec Michel Barrette, ouvert les lignes, des gens avaient appelé et parlé de ces triangles volants. Donc, il faut savoir que depuis qu'on rapporte des observations d'OVNI, disons de façon moderne, donc depuis le milieu des années 40 à peu près, les formes d'objets ont beaucoup varié. Hein. Il y a des témoignages où on parle de boomerang volant, de cube volant, de triangle volant, et bien sûr la forme bien connue de la soucoupe volante. Mais il faut savoir que dans la culture et dans la littérature, c'est surtout à partir de la fin des années 1980 que des gens vont rapporter des triangles volants, et particulièrement lors d'une vague d'observations d'OVNI sur la Belgique entre 1989 et 1992. Mais le témoignage auquel tu fais référence est un témoignage qui nous ramène dans les années 1970. Mais à ce moment-là aussi, on rapportait des triangles volants. Ce n'était pas forcément le type d'OVNI le plus souvent rapporté. Et c'est sûr que dans le cas présent, on peut exclure la possibilité de drones. Dans les années 70, on n'en avait pas. Donc, les gens rapportent ces observations.
Mais les gens ne me disent pas nécessairement que c'est un triangle. Ils me disent que c'est
trois points lumineux qui,
oui,
semble-t-il, se déplacent de concert. Donc, peut-être
exact.
Trois objets qui se déplacent en même temps,
voilà,
ou trois
voilà.
lumières sur un seul et même objet.
D'accord.
Ce qu'il faut savoir ici, Bernard, et ça, c'est très important, il y a deux choses qui sont primordiales pour pouvoir s'engager dans cette conversation. La première, c'est que le phénomène des ovnis est enquêté depuis la fin des années 40, principalement par les militaires aux États-Unis, mais également par des organismes civils. Il faut savoir qu'au moment où on se parle, il y a en France un organisme étatique, donc qui appartient au gouvernement, qui est lié au Centre national de la recherche spatiale, le CNES. Cet organisme s'appelle le GEPAN, qui veut dire Groupe d'enquête et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est un organisme étatique. Et pourquoi il est important, cet organisme? Parce que contrairement aux ufologues, qui sont généralement des amateurs, puis je ne dis pas qu'ils ne font pas un bon travail, mais tu comprends que si un ufologue à Montréal appelle l'armée en disant « Voilà, il y a des gens qui ont vu des lumières dans le ciel, est-ce que c'était des manœuvres militaires. Les militaires ne répondront pas à ce genre de questions.
Ah oui, je comprends.
Tu comprends? Donc, un organisme civil comme le GEPAN en France, il a la possibilité de coordonner les informations qui viennent à la fois de la gendarmerie, qui viennent de l'aviation civile et qui viennent également de l'armée. C'est pour ça qu'un organisme comme celui-là fait un travail vraiment hors pair. Et ce que nous démontrent les recherches menées autant par les militaires aux États-Unis que les organismes civils, disons, entre guillemets, étatiques, ce qu'ils montrent, ces recherches, c'est que jamais le phénomène des ovnis a été réfuté. Donc, il faut arrêter de diaboliser l'armée en disant « l'armée nie l'existence des ovnis ». Ce n'est pas vrai. Hein, durant les commissions d'enquête menées aux États-Unis par l'armée américaine sur les ovnis, lorsqu'ils ont déposé leurs conclusions, les conclusions étaient toujours dans le même sens. Il y a un nombre d'observations à rapporter chaque année par des témoins dignes de foi, et ces observations ne trouvent pas d'explication de manière rationnelle. Ça ne veut pas dire qu'on est en présence d'objets volants venus d'une autre planète. On est en présence de phénomènes aériens qu'on n'arrive pas à identifier. Pourquoi on ne les identifie pas? Ben, peut-être parce que l'information est trop clairsemée pour pouvoir tirer des conclusions, ou bien on est en présence d'un phénomène tout à fait exotique. Donc, jamais, ni du côté de l'armée, ni du côté des civils, on a dit que les ovnis n'existaient pas. Et dans bien des cas, on a juste refusé
de confirmer.
Non, on dit le phénomène existe. Les gens voient et rapportent des choses dans le ciel qu'ils ne trouvent, pour lesquelles on ne trouve pas d'explication. Ce qu'ils maintiennent, c'est que rien ne prouve que ces observations soient des véhicules extraterrestres.
D'accord,
ils
voilà.
C'est vrai qu'on est en présence de phénomènes qu'on n'explique pas. Ça, c'est très important de le retenir parce qu'on a tendance souvent à diaboliser les autorités en disant « on nous cache des choses » ou « l'armée nie l'existence des ovnis », ce qu'elle ne fait pas. Elle reconnaît qu'il y a des observations pour lesquelles on n'a pas d'explication. Et on a nous-mêmes fait entendre ici sur les ondes, par exemple, au cours des derniers mois, des observations qui avaient été, des ovnis qui avaient été détectées par radar. Et rappelle-toi ces conversations, Bernard, comment les contrôleurs aériens étaient étonnés de voir le déplacement de ces objets sur leurs écrans.
Et même des pilotes d'avion.
Et même des pilotes, et pour lesquels on ne trouvait pas d'explication. Donc, Donc, dans un premier temps, on doit retenir que les gens qui rapportent des observations d'OVNI, comme par exemple ces gens qui ont témoigné de la présence de ces trois lumières dans le ciel dans les années 70, on peut dire à prime abord que ces gens-là rapportent foncièrement ce qu'ils croient avoir observé. Donc, leur témoignage est digne de foi. Ces gens-là n'ont pas bu. Ces gens-là sont convaincus d'avoir vu quelque chose d'énigmatique. La deuxième chose qu'il faut retenir, Bernard, et ça, ça ne te fera pas plaisir, et ça ne fera certainement pas plaisir aux auditeurs, toutes les recherches menées depuis les années 60, les unes après les autres, et ce n'est pas l'opinion de Christian Page, c'est l'opinion d'études menées de manière rigoureuse. Le témoignage oculaire n'a à peu près aucune valeur. Lorsque la personne est confrontée à un phénomène qu'il observe dans le ciel ou peu importe ailleurs, lorsqu'il est confronté à un phénomène qu'il n'explique pas, le cerveau se met rapidement à nous jouer des tours. La personne voit trois lumières dans le ciel, son cerveau va imaginer qu'il y a une forme au milieu de ces lumières qui retiennent ensemble, lui faisant imaginer qu'il y a un seul et unique objet. Les témoignages oculaires, s'ils ne sont pas appuyés par des preuves matérielles, sont excessivement fragiles. Et non seulement ils sont fragiles, on sait, encore une fois, par des études très rigoureuses, les unes derrière les autres, vont toujours dans le même sens. Même des gens que l'on croit de manière culturelle, socialement, comme étant des bons observateurs, par exemple des policiers ou même des pilotes d'avion, lorsqu'il est question d'objets qu'on n'arrive pas à identifier, on ne peut pas déterminer quelle est sa distance, on ne peut pas déterminer sa taille et on ne peut pas déterminer son mouvement. Alors même le meilleur des pilotes d'avion, quand il te dit « j'ai vu une lumière dans le ciel », à mon avis, ça se trouvait à 2 km et ça faisait 50 mètres de diamètre. En réalité, ça se trouvait peut-être à 500 km.
Donc les gens s'imaginent avoir vu trois lumières?
Non, ils ont vu probablement trois lumières, mais ensuite, ce qu'ils vont raconter, le déplacement de ces objets, de quelle façon les objets se trouvaient, à quelle distance ils se trouvaient, ce que l'on sait maintenant, et on le fait à travers
c'est
de très nombreux...
Il y a une part d'imagination.
Voilà. À partir du moment où l'observateur est placé dans une situation inhabituelle et ce qu'il voit n'est pas conforme à quelque chose qu'il connaît, son témoignage devient excessivement fantaisiste. Donc, il faut faire très, très attention lorsqu'on accueille ces témoignages et bien les regarder en fonction de ce que l'on sait sur le comportement social des observateurs. Il y a deux réalités, Bernard. Il y a une réalité qui est la réalité factuelle. Donc, si j'avais placé une caméra sur le bord de la route et ce que j'aurais filmé, ce serait la réalité factuelle. Et il y a la réalité psychologique, celle que je crois avoir observée, celle que je crois être la réalité, mais qui n'est pas forcément le reflet d'une réalité factuelle. Et c'est malheureusement ce que démontrent les études sur les ovnis depuis les 70 dernières années. Je sais, on a tendance à dire « Oui, ça peut arriver à mon voisin de se tromper, mais pas moi. Je sais ce que j'ai vu. »
Malheureusement,
les études montrent que tu sais ce que tu crois avoir vu, mais ce que tu as vu n'était peut-être pas forcément la réalité. Mais on aime tellement se référer à nos sens, on fait confiance à nos sens, que d'imaginer qu'on a pu un peu fantasmer sur une observation, ça devient excessivement compromettant.
Intéressant. Très, très intéressant. Je suis content qu'on ait eu cette mise au point, cette explication, Christian Page.
Ça fait
merci
plaisir,
et à vendredi prochain.
Absolument.
Merci à Larry Dufresne, metteur en scène, réalisateur plus que jamais aujourd'hui, Larry, merci beaucoup. Merci à Valérie Beaudoin et Fadois Lapierre qui nous ont aidés aujourd'hui. Alexandra, prends soin de toi, Maryse s'en vient bientôt. Je vous salue, beau week-end, il va faire beau, Paul, lundi.